Le deuxième des quatre mouvements de la Voiacello, de la sonate pour violoncelle seule, écrite par Christophe Maratka pour François Salk, qui porte le titre de Tsiganouska. Vous venez de l'entendre dans l'enregistrement que François Salk en a réalisé au début des années 2000. Alors, c'est drôle parce que cette émission s'ouvrait avec une virtuosité instrumentale très grande, mais qui est probablement, dans la Xardas, qui est probablement, disons, d'un niveau très, très, très enfantin en regard de ce que vous venez de déployer, François, dans ce mouvement ahurissant, enfin.
C'est vrai que ce mouvement est particulièrement difficile, d'autant que il est très polyphonique. On a souvent deux cordes, trois cordes, voire quatre cordes en même temps.
Oui, par moments, j'ai eu le fantasme qu'il y avait plus qu'un violoncelliste. Non, vous nous confirmez bien que vous savez jouer ça tout seul.
Voilà, oui, j'ai joué ça tout seul en une seule fois. Je ne me suis pas re-enregistré en multipiste.
Non. C'est bien vous, et rien que vous, avec vos quatre cordes, donc deux accordés un demi-ton en dessous, mais c'est bien.
Peut-être parfois je chante, ou je souffle, ou je siffle en même temps, mais c'est accidentel.
Revenons peut-être sur certaines difficultés particulières de ce que nous venons d'entendre. Il y a quelque chose que vous m'avez montré en me disant « ça, je ne vois rien de plus difficile que ce moment-là ».
Ces moments où effectivement tous les paramètres de difficulté sont réunis, c'est-à-dire la rapidité des mouvements, l'ambitus, c'est-à-dire on passe de l'extrême grave à l'extrême aigu, les doubles cordes, c'est-à-dire que la pression de la main gauche sur la touche est forte parce qu'il y a deux, trois ou quatre notes à appuyer en même temps, et forcément c'est des rythmes.
Et l'archet en plus qui...
Voilà, des rythmes l'archet qui sont très très précis, en même temps rapides et complexes. Donc c'est sûr que la lecture, l'apprentissage est très très long, et ensuite le jouer en concert ou sous le micro, ça reste aussi difficile parce que musculairement, il y a une grande tension, on le sent dans ce mouvement, le bras, les allers-retours sont très très rapides.
Christophe, vous êtes une forme de torsionnaire, hein?
Écoutez, j'ai une chose importante à dire là-dessus, à ce sujet, parce que il faut souligner une chose, c'est que la difficulté n'est pas un but pour soi. C'est parce qu'on peut avoir facilement l'impression qu'évidemment on cherche à
couper le souffle à tout le monde,
éblouir et de impressionner tout ça. Il faut dire que quand même au fond de cette pièce, je pense qu'en général pour les compositeurs, même s'ils écrivent des pièces difficiles, mais qu'il y a un but quand même plus profond, c'est que à la fois on puise dans ce qu'on connaît, dans l'instrument, dans toutes les techniques possibles, des modes d'expression, mais en même temps, on est très tenté d'aller voir de nouvelles choses, et surtout quand on a un interprète sous la main comme François. Alors, ce n'est pas un but en soi, mais c'est une nécessité. Donc, du coup, évidemment, l'œuvre peut être jouée par des interprètes de grand et haut niveau, mais je pense que la pièce est quand même reste tout à fait jouable.
Vous voulez dire que...
L'air
que...
de rien,
oui.
Il y a quand même, jusqu'à maintenant, hein, ça fait 10 ans
maintenant
qu'elle existe, que
je l'écris. Puisqu'elle est de 99.
Et j'ai pas d'autres interprètes pour ces pièces. C'est la seule pièce dans mon catalogue. Elle n'était jamais montée par quelqu'un d'autre. Pourtant, je l'ai montrée et elle était demandée par des violoncellistes de différentes nationalités et des grands violoncellistes de renommée. Pourtant, aucun n'a jamais réussi ou ne voulait pas. Bref, je connais pas les raisons, évidemment, on me les livre pas. Mais tout simplement, elle n'était pas faite parce que je pense. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas jouable, mais il faut y passer beaucoup de temps. Et aujourd'hui, des musiciens de renommée n'ont pas le temps. Entre les voyages, des concerts, de la famille, bref, il y a un tas de raisons. Et en plus, il y a quelque chose entre moi et François, c'est ce qui nous lie, et c'est pour ça que l'œuvre existe. C'est cette relation qu'on a, on est amis, on est proches. Donc c'est là, en fait, on connaît évidemment des exemples dans l'histoire de la musique où l'amitié a été...
Le moteur premier. On peut remonter loin avec ça. Par exemple, les airs de concert de Mozart ont toujours été écrits pour une femme qui l'aimait, par une interprète.
Et c'est logique.
C'est ça qui crée l'histoire de la musique, c'est la qualité de ce lien, et ça vraiment effectivement de tous les siècles confondus. Mais moi je suis prête à prendre le pari, Christophe, que d'ici quelques années peut-être, quelques décennies sûrement, cette pièce sera inscrite à des concours d'entrée au conservatoire, de sortie peut-être pour commencer, et d'entrée ensuite. Peut-être que nous ne serons plus de ce monde.
Non.
Mais évidemment que le niveau montant inexorablement, on ne sait pas à quel tempo, cette pièce aura d'autres interprètes.
Mais je jure, ce qu'a dit François au début de l'émission, c'est qu'il m'a demandé une pièce longue et difficile. C'est pas... Pour pour justement pour se valoriser lui-même, mais c'est pour justement pour un peu continuer cette recherche que non seulement les compositeurs mais interprètes mènent au cours des siècles d'élargir les possibilités de l'instrument. Et tout simplement, deuxième raison, c'est que dans la musique tzigane, si on écoute et on va encore écouter, là, en fait, ce challenge physique à l'instrument et cette possibilité de s'envoler avec improvisation et atteindre l'envie d'atteindre un autre état. Et au fond de la musique tzigane, parce que voya cello, voya, en fait, désigne dans la langue tzigane un état d'âme d'un musicien qui joue d'improvisation de grande virtuosité pour initier ses confrères à danser et chanter avec lui.
Ça, c'était déjà le cas dans la première pièce de cette émission.
Pour atteindre la liberté. Donc, on pénètre dans un état différent, c'est transcendantal. Donc, ce n'est pas un but en soi, la difficulté, c'est vraiment un but de voyage, d'aller vers le transcendantal.
C'est exactement oui, ce qu'on disait en début d'émission, c'est ce que l'on ressent dans cet effort physique et dans cette difficulté. On ressent une forme de libération, curieusement. Ce n'est pas une difficulté qui est contraignante, mais c'est une difficulté. Évidemment, elle est contraignante au premier abord, parce que physiquement, il faut du temps pour apprendre, il faut un effort physique pour le réaliser. Mais de cet effort physique et de ce temps qu'on a passé pour apprendre, pour réaliser, pour maîtriser cette virtuosité et maîtriser cette difficulté, il en ressort une sensation de libération qui, musicalement, est vraiment porteuse.
Vous voulez bien qu'on avance un peu dans votre sonate et qu'on écoute l'extrait que vous avez choisi de nous présenter du troisième mouvement. Vous n'avez pas proposé à nos auditeurs que nous écoutions, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, un mouvement en totalité ou en partie à partir de son début, mais vous avez choisi d'entrer dans le chœur.
Voilà, pour pouvoir justement un petit peu donner une clé peut-être quand on va l'écouter intégralement, pour pouvoir en parler plus en détail, parce qu'elle se réfère à des choses bien précises.
Bien précises. Cet extrait de Rome, le troisième des quatre mouvements de la sonate pour violoncelle seule de la Voya Cello, écrite par Christophe Maratzka pour François Salk, vient d'être joué par François Salk, qui l'a enregistré au début des années 2000. Alors là, on a un vrai festival, hein, Christophe, on a l'impression que vous avez convoqué un orchestre.
Oui, alors effectivement, le violoncelle, en fait, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, ce n'était rien par rapport à ce mouvement-là. Alors, paradoxalement, je pense que le mouvement est un peu plus facile que le deuxième, parce qu'une fois qu'on comprend comment on produit ces sons, après, il y a une certaine inertie qui s'installe. Mais il faut dire
que... Vous aviez des modèles, là, hein ?
Il faut dire que ce mouvement se réfère à un phénomène folklorique des Tziganes, qu'on peut écouter l'extrait. C'est-à-dire que c'est là où on chante en improvisant des syllabes avec,
qui ne sont pas oui, des phonèmes en fait.
Oui. Des phonèmes avec une grande rapidité. Donc, au niveau du texte, ça ne veut rien dire, mais c'est que du rythme. Et en fait, ça crée une sonorité presque de percussion. D'ailleurs, ici, le violoncelle se transforme presque en un instrument de percussion. Beat up, 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 beat up
malheureusement.
Ce qu'on vient d'entendre, Christophe, c'est un enregistrement réalisé, enfin que vous nous avez apporté, qui a été réalisé en Hongrie ou
En Roumanie.
En Roumanie. Mmh. Alors, dans votre sonate, ça donne quoi ça ?
Alors, en fait, il fallait traduire. En fait, je voulais absolument mettre ce phénomène dans la musique parce qu'il fait partie tout à fait naturelle de la musique des Tziganes. Donc, comment faire ? Donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis préparé. Une grille, on peut dire, une grille, avec plusieurs modes de jeu différents, sachant que je vais vouloir les enchaîner très rapidement l'une après l'autre.
Du coup,
le résultat,
ça
serait d'entendre presque un ensemble de percussions. Alors, on va faire un petit survol
des différents modes de jeu. En fait, on a vu tout ce qui était un petit peu possible au violoncelle pour des modes de jeu percussifs avec des timbres très différents. Et si on les passe un peu en revue, puisque je les ai sous les yeux, parce que Christophe a convenu d'un code pour chaque signe. Alors, on a la frappe sur le touche.
Avec la main gauche.
Avec la main gauche. On a la frappe sur l'archet en ricochet. On a aussi quelque chose de très très original, c'est les cordes croisées. C'est un mode de jeu qui est très 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 peu souvent utilisé. On croise deux cordes, on les accroche avec la main, ce qui donne un effet de tambourin.
Quand vous dites croiser, c'est-à-dire que vous faites passer une corde sous l'autre en
Exactement.
Quelque sorte. Hein.
On les presse avec le doigt, donc ça fait que les cordes cognent l'une contre l'autre.
Ils sont dans une vibration percussive précisément.
C'est ça. Alors d'abord on entend la corde qui vibre, mais en plus comme elles cognent l'une contre l'autre, il y a plusieurs sons.
Et ça c'est quelque chose que Christophe a inventé.
Non, ça existe dans la musique, je crois que c'est Ginastera, non ?
Villa-Lobos, il l'a utilisé.
Mais c'est vrai que c'est très peu utilisé en fait.
Ensuite on a le collegno, bon ça c'est classique, c'est très ancien, c'est joué avec le bois de l'archer. Là il y a quelque chose de très original qui vient de Christophe. C'est la pitch net, c'est-à-dire que au lieu d'accrocher la corde, on frappe avec l'ongle, ça donne un son plus un petit peu plus beaucoup plus percutant que le pizzicato classique. Et ensuite, il y a tous les modes de jeu, le pizz bartok où la corde frappe contre la touche, les accents très très percutants, violents près du chevalet. On a également les cordes étouffées, c'est-à-dire j'étouffe les cordes avec la main gauche et je les frappe avec la main droite. Ce qui est aussi assez sonore, avec un son comme ça très très étouffé.
Et le son ponticello avec coup d'archet très rapide.
Et aussi le coup d'archet très rapide ponticello. Est-ce que j'ai la place avec les micros pour le faire ? Je vais essayer de... Voilà, parmi de nombreux autres modes de jeu.
Alors est-ce qu'on peut entendre le moment du mouvement où tout ça vient se coaguler ?
Mais on peut avoir l'impression qu'on casse le violoncelle ou que ça le met en danger, mais en fait...
Absolument pas.
Voilà, ouais, le visuel, en tout cas le visuel, je dis ça pour nos auditeurs, c'est que tout d'un coup, vous vous transformez en percussionniste de jazz qui prend un solo. Dans vos expressions et dans l'engagement de votre corps, un violoncelliste fait toujours corps avec son instrument, mais dans une forme d'immobilité, on va dire, qui est complètement rompue par cet ensemble d'enchaînements d'extravagances corporelles, en fait, qui est demandé à François.
Un petit peu, parce que c'est très acrobatique aussi, physiquement. Hein. Mais une fois, comme disait Christophe, une fois qu'on a appris les mouvements, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut prendre le temps de se familiariser avec ces modes de jeu.
Et vous avez dit tout à l'heure une chose très juste, vous avez évoqué jazz. Bon, on parle de la musique tzigane, mais quand même, il y a quelque chose en commun, c'est l'improvisation. Donc l'improvisation est vraiment au cœur de ces deux univers sonores. Et
sauf
là,
que,
là
sauf
tout
que,
est très
oui.
écrit.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
C'est minutieusement écrit, chaque chose est très... il faut respecter évidemment le rythme pour que justement cette liberté en ressort. On connaît ça des interprètes. Une fois qu'on respecte le texte le plus possible, là, en fait, il se dégage finalement ce que le compositeur voulait dire. Donc, du coup, on ressent une grande liberté. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant le final ? Est-ce qu'il y a dans le final des éléments complètement nouveaux que vous introduisez
oui.
dans ce...
Oui, il y a deux choses. La chose la plus importante dans le final, déjà, il y a un enchaînement. Le troisième et quatrième mouvement sont enchaînés, attaquas, sans arrêt. Et il s'agit d'un chant plaintif, mais toujours fier, Il y a toujours ce côté
irréductible.
On vit pour le moment, on ne pense plus au passé, on ne pense surtout pas au futur. Et c'est on vit maintenant et on fait ressortir toutes les émotions du vécu. Et voilà. Donc c'est un chant exposé sur les cordes graves, surtout, même très haut en fait. Donc ça, la corde est très tendue, du coup il en ressort au niveau d'expression quelque chose assez tendu, mais en combinaison en fait avec une reprise d'archet très rapide, ce qui va donner à la phrase et à la musique une certaine urgence. Imaginez un chanteur qui chante, qui parle et qui va reprendre son souffle et de nouveau. Donc il y a cette urgence qui s'installe. François, s'il te plaît, tu peux nous...
Oui, parce que quand on doit revenir, je vais le montrer là, quand on doit revenir très 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 vite à une extrémité de l'archet, c'est-à-dire je vais aller d'allonge que la pointe, et la partition m'indique qu'il faut que je redevienne très très vite. Alors le fait d'avoir un mouvement brusque me fait faire des choses, en fait, sans le vouloir, donner un petit accent à la fin du son et d'attaquer la nouvelle note un petit peu différemment. Alors je vais essayer de le montrer sur un extrait. On joue avec l'archet. Et là, je vais revenir exactement à l'endroit de départ. C'est-à-dire que finalement, il y a presque 40 cm de mouvement dans le vide. Et ce mouvement étant très rapide, il y a une forme d'agitation et de brutalité à la fin de la première note. Et un truc d'accent comme ça. Et la nouvelle note va être beaucoup plus vive, beaucoup plus dynamique. Alors, d'agitation et de grande activité.
Et est-ce que vous pourriez nous montrer ce même extrait joué, je dirais, de manière classique ? Et vous pourriez nous le refaire ? Quelque chose qui rend le phrasé beaucoup plus, effectivement, tendu, comme vous venez de dire, Christophe, et beaucoup plus anxiogène, enfin, qui traduit un sentiment d'urgence et non un sentiment d'une mélodie qui, ma foi,
voilà,
plane dans les terres.
C'est pas une mélodie rêveuse comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est, au fond, toujours fier et qui n'arrête pas et qui continue malgré la fatalité de la vie, de l'existence. Et c'est ça, c'est exactement ce qu'on doit ressentir. Et en fait, à la fin du mouvement, donc à la fin de l'œuvre, tout d'un coup, tout se rompt, tout se calme. Et il y a quelque chose peut-être qu'on ne fait pas très souvent, c'est qu'on joue sur trois cordes simultanément.
Comment est-ce qu'on peut faire ça?
Alors là, je vais essayer de l'expliquer. Ce n'est pas facile, évidemment, ce serait avec une vidéo, ce serait très très clair. Quand on joue sur deux cordes, là je vais jouer sur... Tout simplement, l'archet se pose entre les deux, donc les deux cordes sonnent. Si je veux jouer sur une troisième corde, c'est un petit peu plus difficile parce que le chevalet étant en courbe, il faudrait que j'en écrase une énormément. Et c'est impossible parce que celle du milieu qui serait complètement écrasée,
empêcherait,
vu qu'il y a une courbe homogène sur les trois. Donc, c'est une astuce de Christophe qui consiste à appuyer avec la main gauche très très loin sur la corde, à l'aigu. Donc, le niveau de la corde va baisser. Il va tellement baisser qu'il va être possible de jouer sur les deux cordes extrêmes, celle du milieu n'étant même plus effleurée. Alors je vais montrer.
Vous annulez une corde en fait.
Exactement.
Vous l'annihilez parce que vous la mettez hors jeu.
Et ça, je l'appuie. Alors du coup, je vais pouvoir jouer deux cordes extrêmes et faire apparaître celle du milieu en choisissant la bonne place d'archet, c'est-à-dire le moment où le niveau de la corde du milieu va rattraper le niveau des deux autres. Alors c'est un peu spécial, mais ça permet de voir ce magnifique choral sur trois cordes. Et tout un chant qui apparaît à la fin de l'œuvre.
On écoute tout de suite ce dernier mouvement de la sonate de Christophe Maratzka que vous avez enregistré, François Salk, il y a quelques années.
Thank you.
le mouvement final du grand solo pour violoncelle écrit par Christophe Maratka pour François Salk en 1999, Voiacello, interprété par François Salk, qu'il a enregistré quelques années après la création de ce grand solo pour violoncelle seule. Alors, il y a deux choses qui m'ont frappée. D'une part, cette fin dans un climat intérieur par rapport à tout ce déploiement, non seulement de ce mouvement, mais des trois mouvements antérieurs. Quelque chose qui me rappelle un peu, mais ce n'est pas pour autant que ce soit votre source, Christophe, la fin du sixième quatuor de Bartok. Quelque chose qui se délite comme ça dans un ailleurs. Et alors, il y a une dimension tout d'un coup qui m'a frappée. Peut-être que j'étais tellement estomaquée par la virtuosité instrumentale que je ne m'en étais pas rendu compte auparavant. je ne vais pas vous provoquer, François, mais vous jouez toujours très juste, hein, j'imagine. Alors, il y a un truc bizarre avec les intervalles.
Les micro-intervalles.
Christophe a
donné beaucoup d'indications sur des inflexions du son. C'est-à-dire que ce n'est plus des tons, des demi-tons, ce n'est même pas des quarts de tons, mais c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas.
Un petit peu l'équivalent de la, on va dire, de la Sprechstimme de Schoenberg. C'est-à-dire quelque chose qui est entre deux.
Entre deux, ça ne fait pas partie de notre culture occidentale, mais c'est tout à fait naturel pour d'autres cultures. Et là, en fait, c'est un phénomène qui va à travers toute la partition et qui est bien noté et bien précis. Et François, il le fait justement, très justement. Donc...
Alors, quand il y a des notes avec des petites flèches, parce que ça, j'ai remarqué, il y a tout d'un coup des paquets de petites flèches sur chaque note. Vous faites un peu ce que vous voulez avec la justesse.
Non, alors la petite flèche vers le haut, donc c'est un petit peu monter le son, un peu moins d'un quart de ton. La petite flèche vers le bas, un peu vers le bas. Je peux montrer l'exemple par rapport à deux demi-tons. Donc, on a... vers le bas, une inflexion vers le haut, sur le fa dièse par exemple, un peu vers le bas, un peu vers le haut. Donc c'est des petites inflexions, ce qui donne des couleurs très très particulières.
C'est drôle parce que chaque fois que François joue cette pièce, donc j'ai l'habitude de la présenter au public et il me supplie chaque fois de bien préciser que tout cela est bien noté et voulu par le compositeur pour qu'on ne pense pas que le violoncelliste joue faux. Mais c'est vraiment, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de l'entendre, de le jouer. Je veux dire, par rapport à notre culture, c'est quelque chose qu'on apprend, mais ce n'est pas naturel. Donc,
je crois connaître un autre compositeur, mais peut-être que je me trompe, Christophe Maratka, c'est l'anglais Brian Ferneyhough. Je crois que lui, je crois avoir vu ça dans son premier quatuor à cordes, hein, dans les Sonatas for String Quartet. Mais effectivement...
De toute façon, les micro-intervalles, ils sont naturellement quand même dans l'échelle de, harmonique, quand on parle des harmoniques, hein, c'est-à-dire
c'est là qu'on les entend,
des sons
en fait,
naturels d'une corde. De toute façon, quand on parle d'un accord tempéré ou non tempéré, déjà, physiquement, c'est présent. On est dans le domaine des micro-intervalles. Tout cela pour dire que c'est une des choses qui fait partie dans cette partition de ma pièce Voiacello et qui est bien minutieusement notée et exigée. Voilà.
Et qui fait qu'aujourd'hui, François est donc, si je comprends bien, 10 ans après la création de cette pièce, toujours le seul interprète à oser cette pièce en concert.
En plus de cette scordatura dont on a parlé du début, c'est-à-dire des deux cordes du milieu du violoncelle qui sont baissées d'un demi-ton, c'est pas pour rien. Il y a une raison pour cela. C'est que, du coup, le violoncelle sonne. Pendant toute l'œuvre, on a à la base ou la sonorité naturelle du violoncelle autour de cet accord. Et si on le joue dans sa forme serrée, donc on obtient fa dièse, la, si dièse, do dièse. Donc nous avons des intervalles caractéristiques pour ce qu'on appelle, je crois, François, en français, on dit mode tzigane aussi.
On peut dire le mode tzigane, oui.
Voilà, donc cet intervalle... qui nous renvoie un petit peu aussi en Orient, mais c'était pour dire que ce n'était pas un caprice de ma part, c'était aussi pour faire sonner l'instrument d'une façon tzigane.
Et la mettre dans son capital génétique, qui est d'être génétiquement une œuvre tzigane. Est-ce que je peux vous demander, avant que nous ne réécoutions dans son intégralité et dans sa continuité votre grand solo pour violoncelle, s'il y a d'autres pièces de votre catalogue qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qui ne sont jouées que par un interprète?
Non. qui sont peut-être très exigeantes, mais qui ont été montées, des œuvres de musique de chambre, des trios ou des concertos, mais qui sont depuis rejouées par d'autres orchestres, des interprètes. Mais celle-ci, elle est vraiment spécifique. Je le prends bien, quelque part. En fait, je n'y pense pas. Je suis ravi que François la défend. Quelque part aussi, c'est pas une exclusivité de ma part, mais tout simplement, le jour où un violoniste vient me voir et désira le jouer et réussira de le jouer, je serai ravi, évidemment.
Et François, vous prendrez ça comment ? Vous
serez jaloux ? Moi, j'ai d'ailleurs, je connais beaucoup de jeunes violoncellistes parce que je partage beaucoup, souvent mes concerts avec des violoncellistes en ensemble de violoncelles et certains sont intéressés, je monte la partition, j'encourage les jeunes solistes à la travailler, bien sûr.
Espérons que cette audition que nous proposons aux auditeurs de France Musique ce matin va contribuer à donner l'idée à des violoncellistes de monter cette sonate. Je vous remercie beaucoup tous les deux et nous allons écouter maintenant ce grand solo violoncelle dans sa continuité. Je vous laisse, Christophe Maratka, annoncer les mouvements parce que vous avez forcément une prononciation qui est plus juste que la mienne.
Alors, il y a quatre mouvements. Le troisième et quatrième s'enchaînent sans arrêt. Et chaque mouvement porte un titre. D'ailleurs, ce sont des néologismes, donc des mots inventés, mais dont la racine nous renvoie à cette ethnie un peu dispersée un peu partout en diaspora, en Europe. Donc le premier, c'est Gitanéon, donc Gitan. Deuxième mouvement, Tsiganushka, Tsigane. Troisième mouvement, Rome, donc des Roms. Ouais. Et quatrième, Vienne Bohème. Donc on entend le mot bohémien. Bref, c'est pour justement donner un petit aperçu de cette synthèse de la musique qui s'inspire de cet univers tzigane.
Tout ce grand voyage donc qui était proposé, je ne sais pas si certains de nos auditeurs auront vu ce film dans la Chaudrome, eh bien le voici réuni dans cette voyacello, dans ce grand solo pour violoncelle seul que François Salk a enregistré au début des années 2000 et que nous écoutons maintenant.
Thank you. Thank you.